française.
Ladies and gentlemen.
C'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends.
La France n'est pas un pays réformable. C'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République.
Voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois réunis. Je suis Quentin Warlop et je vous accompagne sur la route de l'élection présidentielle depuis maintenant près de 9 semaines, 9e numéro déjà de notre podcast Voix de France avec 3 invités aujourd'hui, 3 membres de la rédaction. Johanna Bouquet, salut Johanna.
Salut Quentin,
tu
bonjour messieurs.
Tu es journaliste pour Tarmac, tu suis la campagne présidentielle pour les éditions digitales de l'ARTBF, puis celui qui m'accompagne depuis presque le début de ce podcast, salut Marc Cirlero.
Salut Quentin.
Salut Marc, tu es responsable, pas encore responsable, peut-être dans quelques années, en tout cas tu es membre de la rédaction politique de l'ARTBF et puis l'un des boss de la RTBF. Salut Pierre Marlet.
C'est moi le responsable en fait.
Voilà, le responsable de l'info sur la première. Il faut préciser que je t'ai pas invité parce que t'es boss. Je t'ai invité parce que tu as été à ma place pendant de nombreuses années et que tu as suivi l'actualité française et les présidentielles pendant plusieurs années.
Les présidentielles de 2012 et de 2017 de près.
Effectivement. Alors ça se rapproche, on est à 5 jours, 5 petits jours seulement du premier tour. L'occasion de faire un premier bilan, tous ensemble, un premier point sur cette campagne qui a mis du temps à se mettre en route et qui a surtout été marquée par l'actualité sanitaire et internationale et la guerre en Ukraine forcément. Malgré tout, on va aborder avec vous trois ce qui vous a marqué. Alors honneur aux femmes, pour commencer, Johanna, quelle image, toi, tu vas garder de cette campagne présidentielle?
Alors, en dépit du fait qu'on pourrait se dire qu'il y a eu peu d'événements marquants pendant cette campagne, c'est une petite musique qu'on entend, je pense qu'il y a quand même quelques faits. Et celui que je retiendrai en premier, c'est effectivement la pré-annonce de potentielle candidature de Madame Christiane Taubira. C'était en décembre 2021. Et elle annonce dans une vidéo postée sur Twitter qu'elle envisage de se présenter à la campagne présidentielle. Alors apparemment, c'était suite au grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, où elle s'est posé des questions. Mais ça faisait pourtant des mois, voire des années, que d'invitations en émissions politiques, télé, radio, de pétitions en ligne, on demandait à Madame Christiane Taubira « Est-ce que vous allez vous présenter ? Est-ce que vous allez vous présenter ?» Et qu'elle répondait « Non ». Je me souviens même d'une fois où elle a houspillé un auditeur de France Inter en disant « Mais enfin, non, mais bon, c'est moi qui décide. » Et puis finalement, là, à quelques mois de l'élection, sans programme, elle décide qu'elle va peut-être monter sur le ring. Mais peut-être seulement parce qu'en décembre, elle nous donne rendez-vous en janvier prochain pour connaître réellement sa décision.
J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
Voilà pour le sonore de Christiane Taubira. Marc, avec le recul, même si on l'avait déjà dit très rapidement, elle est partie trop tard.
Elle est partie trop tard, sans programme, sans réelle équipe derrière elle. Et puis, elle a voulu se réfugier derrière une sorte de recours en disant « Il y aura cette primaire populaire à gauche, je vais être investi par cette primaire populaire et on dira que la candidate de la gauche, ça sera moi, et plus Mélenchon, Jadot, Roussel ou Hidalgo. » Eh bien, ça n'a jamais pris. Et il faut bien dire que si elle a jeté l'éponge, c'est pas parce qu'elle n'avait pas suffisamment de personnes autour d'elle, même si on a suffisamment dit qu'elle n'avait pas vraiment un programme, une équipe et tout, mais c'est qu'elle n'a jamais eu les parrainages nécessaires, les 500 parrainages nécessaires pour être candidate à l'élection présidentielle. À partir de ce moment-là, et avec des sondages qui n'étaient pas bons, et avec des moments un peu compliqués, il faut bien dire, on en avait parlé dans le podcast quand elle était à la Fondation Abbé Pierre, où elle n'avait pas su répondre à une question bien précise en matière de logement. À partir de ce moment-là, la candidature de Christiane Taubira ne tenait n'est plus. Résultat, elle n'est plus là.
Pierre, avec le recul aussi, on a beaucoup misé, en tout cas à gauche, sur cette fameuse primaire populaire. C'est un véritable fiasco aussi.
Oui, ça symbolise exactement le fiasco complet de la gauche dans toute cette histoire. Depuis le début, c'est un fiasco. C'est un fiasco avec un mauvais choix de candidate qui n'a jamais réussi à faire campagne et à incarner quelque chose qui pour le moment est à 1,5% des intentions de vote. Anne Hidalgo, rendez-vous compte. Vous avez Christiane Taubira qui se déclare peut-être candidate et puis qui, elle... Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Christiane Taubira, qui est quelqu'un qui a le verbe haut, qui a réussi quelque chose... qui était très polémique en France, qui était le mariage pour tous. Moi, je l'ai vu à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Mais là, pourquoi il y est allé comme ça? Et on retiendra dans l'histoire que Christiane Taubira, bah, c'est un échec complet pour la gauche en 2022, et elle a pris sa part. Et elle a été, en 2002, la candidate contre Lionel Jospin, qui est allée chercher moins de 2%, mais ce qu'elle est allée chercher a suffi à éliminer Lionel Jospin du premier tour en 2002. Donc, voilà, elle reste pas dans l'histoire avec un grand H de la présidentielle, Christiane Taubira, et c'est dommage.
Je te rejoins totalement, mais c'est vrai que c'est ce moment-là de la campagne, pour moi, il est symptomatique de la cacophonie générale qui se poursuit encore aujourd'hui. Maintenant qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon est sur une dynamique positive dans les intentions de vote, etc., on assiste encore aujourd'hui, de la part d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot, à une stratégie de martelage, vraiment de battage médiatique contre ce candidat de gauche. Et donc, ça illustre cette cacophonie générale qui se passe à gauche encore aujourd'hui et qui se continue encore aujourd'hui.
Surtout, Marc, que cette primaire populaire de la gauche, c'est, si je me souviens bien, c'est 400 000 personnes, 400 000 votants qui s'engagent à voter, du coup, pour Christiane Taubira. Elle se retire. Donc, ces voix, elles vont où? On serait tenté de se dire éparpillées un peu partout. Et puis, finalement, ils annoncent à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, alors vous rappelez que cette primaire populaire, c'était très particulier parce qu'on n'appelait même pas à voter pour quelqu'un. Ils avaient établi des évaluations, une sorte de bulletin. Ça allait de très bien, bien, satisfaisant, passable ou insuffisant. Et sur cette base-là, la personne, dans un calcul très complexe, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, celle qui est arrivée en tête, c'est Christiane Taubira, devant Jean-Luc Mélenchon.
Il a été déterminé que la personne arrivée en tête... et Madame Christiane Taubira.
Mais dès le départ, ce qui posait problème, 400 000 personnes y participent, ils sont mobilisés pour qu'il y ait un candidat de gauche, et Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo disent « Oh, on s'en fout, nous, du résultat. Peu importe qui sera devant, on s'en fout. » Et puis le problème de Christiane Taubira, elle n'a pas de parti. Alors les autres ont un parti, la France Insoumise, c'est Mélenchon, Roussel, il y a le Parti communiste, Hidalgo, le PS, enfin, une partie du PS, et Yannick Jadot, oui, aussi une partie des Verts, puisqu'ils ne sont pas tous derrière lui. Enfin, bref, mais elle n'a même pas de parti. Le parti qui la soutenait, c'est le Parti radical de gauche, qui ne pèse pas très lourd. Donc, vous voyez, il n'avait même pas suffisamment d'élus que pour pouvoir avoir les 500 parrainages nécessaires pour qu'elle se présente. Donc, elle n'avait pas de programme, pas d'équipe, pas de parti derrière elle, c'était impossible. Et les autres se cherchent, ils ont passé plus de temps à se taper dessus qu'à essayer de se réunir. Si, ils étaient tous d'accord pour un rassemblement, pour une candidature unique, à condition d'être le candidat. Si c'était l'autre, c'était niet. Ça promet pour les législatives, parce que rappelons-le, pour passer à avoir des députés, il faut que la gauche se rassemble. Si la gauche ne se rassemble pas à un minimum pour les législatives, ça va être une véritable bérésina.
Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Je trouve que Marc a magnifiquement résumé le fiasco complet, et on est en train de se dire aussi quelle légitimité avaient les organisateurs de la primaire populaire pour dire « Oh ben, c'est vous ». C'est pas vous. Donc, il y a là quelque chose de très étrange qui est peu démocratique, alors qu'on est censé défendre la démocratie. Et je crois aussi que le grand débat, désormais, pour la gauche, c'est de continuer à vivre. Et le vrai défi, c'est plus la présidentielle. On a compris que c'était complètement fichu. Le vrai défi, c'est de garder des députés aux législatives. C'est pas gagné, et c'est paradoxal, parce que l'an dernier, lors des municipales, là, on a vu que le Parti socialiste gardait des assises dans les villes et les villages de France.
Un ancrage fort encore.
Un ancrage qui était encore présent. Donc on se disait, tiens, pour la présidentielle, ça va pas être facile, mais il y a quand même encore une structure, une force. Et puis ils sont tellement, pour l'instant, en lutte interne. On a l'impression que le premier ennemi, c'est les écologistes. Et là, il y a vraiment un paradoxe étrange. Quant à Jean-Luc Mélenchon, là, par rapport à ce que dit Johanna, je comprends que ni Yannick Jadot ni Anne Hidalgo n'aient envie de se rallier à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il ne fait pas vraiment les choses comme il faut pour être vraiment désiré, pour provoquer un rassemblement.
Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes.
Mais juste pour la petite anecdote concernant l'aspect démocratique ou non de cette primaire populaire, celui qui est arrivé deuxième dans le vote de cette primaire populaire, c'est Yannick Jadot. Et pourtant, aujourd'hui, il décide de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc là aussi, ça, c'est assez révélateur de cette cacophonie générale.
Et je rajouterais également qu'il y a un gros soutien, en tout cas en dernière minute, c'est l'ancien président François Hollande.
Alors lui, on l'a entendu longtemps, ce qu'il allait dire. Il disait qu'il allait peut-être bien, pourquoi pas, soutenir Anne Hidalgo. Puis de semaine en semaine, il n'a jamais rien dit. Jusqu'un jour, ils ont été un petit meeting à Limoges. Et là, il est apparu et il est venu un peu comme un sauveur. Il a voulu apparaître en tout cas tel quel. Et il est venu dire qu'il soutenait Anne Hidalgo, que c'était la meilleure des candidates possibles. En sachant très bien que vu les résultats, il ne prenait pas grand risque. Un positionnement qu'il est supposé que François Hollande, petit à petit, veut revenir dans la vie politique et qu'il ne pourra pas dire qu'il était un traître à son parti. Il a quand même été premier secrétaire du PS pendant plus de 10 ans et donc il a quand même joué le jeu, sachant très bien que c'est fini, mais s'il veut jouer un rôle peut-être dans la campagne des législatives et sans doute pour après, François Hollande s'est remis dans la droite ligne d'un PS. PS, on ne sait pas très bien ce qui va en rester après puisqu'on dit déjà que le soir du premier tour, c'est Anne Hidalgo prend la tatouille qui est annoncée, 1,5%, 2%, 2,5%, qu'Olivier Faure passera aussi à la casserole parce qu'on ne voudra pas, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, parce qu'on ne veut pas que ce soit lui qui mène la campagne pour les législatives.
Pierre, l'apparition comme ça de François Hollande, l'ancien président de la France, en toute fin de campagne, dans l'indifférence quasiment générale, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ça n'a aucun impact, que François Hollande, à l'heure actuelle, n'existe plus. Le contraste est assez frappant avec Nicolas Sarkozy qui continue tout de même à être considéré comme un sauveur dans la droite française et que Valérie Pécresse a appelé de toutes ses forces à la soutenir. Et Nicolas Sarkozy s'est bien gardé de le faire. Donc on voit bien que là, il y a une stature différente entre les deux anciens présidents. Cet été, moi j'ai vu un film extraordinaire, ça s'appelait Président. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était Nicolas Sarkozy, incarné par Gilles Lelouch, c'est une fiction, qui va rencontrer François Hollande et qui veut le persuader de, en tandem, partir pour sauver la France, pour empêcher que Marine Le Pen ne soit président de la République. L'impression que ces deux-là, ensemble, ils peuvent encore sauver quelque chose. Bon, le film est très drôle à voir. Je vous dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. et ça ne peut pas fonctionner.
Johanna, toi, tu n'es pas vraiment sur la même longueur d'onde.
Non, je suis pas tout à fait d'accord. Au contraire, je trouve que Nicolas Sarkozy est assez absent. Juste, il brille par son refus de soutenir Valérie Pécresse. Et en revanche, on a quand même l'impression que comme ça, à tâtons, depuis des semaines, François Hollande revient. Il est interrogé par beaucoup de médias, beaucoup de réseaux sociaux sur la question de la Russie. Il a fait une émission très suivie sur les réseaux sociaux pour parler de la présidentielle. Il est invité dans certaines écoles. On sent comme ça qu'il est justement en soutenant et en apparaissant comme cette figure emblématique de feu, le Parti Socialiste, ou on va peut-être pas dire feu tout de suite, mais en apparaissant comme ça, comme cette figure légitime du Parti Socialiste, de ces vieux dinosaures du Parti Socialiste, il réapparaît dans le sillage politique, il réapparaît dans le sillage médiatique à tâtons. Et je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant à observer. Et là, il donne son cachet de légitimité, comme le disait très justement Marc, son cachet de fidélité au Parti Socialiste.
Be you, be proud of you, because you can be do what we want to do.
Marc, ton fait d'actualité, ton fait de campagne, à toi que tu retiendras, c'est quoi ?
Pour moi, c'est très clairement la virulence, le ton, les propos, la manière d'agir et de penser d'Éric Zemmour. Franchement, c'est ma 5e campagne présidentielle. Je pense que même en 2002, avec Jean-Marie Le Pen, le ton était moins dur. Ce que peut dire Éric Zemmour, avec un verbe et une tonalité qui passe bien, on l'a connu, beaucoup de Français l'ont connu avant dans les médias, donc il passe comme journaliste avec ce côté professeur, en douceur. Il s'énerve rarement, il ne crie pas, il ne s'énerve pas comme pouvait le faire Jean-Marie Le Pen. mais ses propos sont d'une virulence inouïe. La notion de grand remplacement, on ne va pas y revenir, on a souvent évoqué, mais tout ce qu'il peut dire sur l'immigration. On a vu cette vidéo il n'y a pas longtemps, il va dans une classe, il se retrouve par rapport face à un petit garçon qui, visiblement, est peut-être d'origine lointaine, non française. Et encore, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et il lui dit, mais tes parents, ils sont venus quand ? Parce que pour lui, la manière dont il parlait à ce jeune garçon, c'était lui dire, finalement, ils sont venus quand ? Pour profiter de la France.
Le pays le plus généreux du monde, c'est la France. Oui, voilà. Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France ? Parce que justement, c'est mais le plus beau pays du monde et c'est le pays le plus généreux du monde.
Moi, mes parents, ils ne sont pas venus en France. Hein.
Ah bon ?
Oui.
Et alors ?
Moi, c'est mes arrière-grands-parents et arrière encore. Donc, moi, je suis totalement français.
Eh ben oui, moi aussi, comme toi.
Alors, on se souvient de la polémique sur les prénoms. Franchement, que tous les Français doivent, même d'origine étrangère, doivent appeler leur enfant Marc, Philippe, Christophe, Pierre, Johanna, pas sûr qu'il aimerait bien parce que ça a déjà une connotation. Donc, quand vous entendez ça, vous dites, mais c'est pas possible. Et quand on voit le soutien qu'il a quand même eu derrière, à un moment, on s'est quand même posé beaucoup de questions. Ici, il est à 10-11% dans les sondages. Rappelez-vous, quand il a franchi le pas, il a vraiment directement grimpé, on l'a vu à 15-16%, et beaucoup se sont posé des questions sur ce qu'il allait faire ou pouvoir faire.
Tu parles de ses soutiens, on était ensemble au meeting de Villepinte, il y avait plus de 10 000 personnes, il y avait vraiment un large soutien de la part des fidèles d'Éric Zemmour, beaucoup de jeunes notamment, on aura l'occasion d'en reparler. Tu parlais de la virulence des propos du candidat Zemmour, je vous propose de l'écouter, c'était à Villepinte, au meeting.
Contre moi, tout est permis, la meute est désormais lancée à mes trousses, mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court.
Voilà pour les propos d'Éric Zemmour qui s'attaque, Pierre, aux journalistes, mais pas seulement.
Non, mais ça, c'est une vieille technique de s'attaquer aux journalistes. C'est pas nouveau. D'autres que lui l'ont fait. Nicolas Sarkozy, moi, c'est la première personne que j'ai vue en 2012 s'en prendre directement, nommément journaliste. Pour moi, c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est comme dit Marc, c'est que on est abasourdi par les énormités qu'il lâche et qu'il y a toute une série, il y a des millions de gens qui le gobent et qui le prennent pour argent comptant. Pour moi, le plus symbolique, c'est sa manière de revisiter l'histoire. Et là, il y a quelque chose qui nous interroge parce que je crois que ça nous concerne tous. Et ça concerne peut-être un grand pays comme la France plus que nous, mais quand on voit aussi comment le nationalisme est à l'œuvre, quand on voit comment Vladimir Poutine fonctionne, il y a quand même là un débat et un défi démocratique immense de faire dire au passé des choses qu'ils ne disent pas. C'est la spécialité d'Éric Zemmour. C'est ce qu'il fait avec Pétain. Enfin, cette énormité de dire que Pétain a défendu les Juifs français, ça a été démontré par des dizaines d'historiens éminents qui ont pris la peine de recouper les sources, de revenir aux documents, de faire des études complexes qui arrivent à un résultat qui, pour les historiens, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun historien sérieux ne peut défendre cela. Et voilà. Et ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est énorme. Et on vient lâcher des choses comme ça. Et que faut-il faire par rapport à ça ? Contester, on voit que c'est très compliqué. Dans les débats, certains s'y essayent. C'est pas facile parce que Éric Zemmour, c'est une bête médiatique. Il a l'habitude. Et on mettrait un historien très connu, un académique face à lui. C'est sans doute l'historien qui perdrait pour le grand public. Et donc, je trouve qu'on est, face là à un défi qui nous interroge tous aussi en tant que journalistes, face à des gens qui disent des choses totalement fausses et qui ont un impact considérable sur le grand public.
D'autant, Pierre, qu'il est très très bien aidé aussi par ses équipes de campagne qui sont jeunes, très jeunes, spécialisés dans les réseaux sociaux.
Dans le storytelling aussi. Et autres. Et donc, oui, il y a un impact. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un véritable défi démocratique qui ramène à tout ce qu'on lit comme énormité sur les réseaux sociaux, qui est un défi pour nous tous, journalistes. Et oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et je suis comme Marc. J'étais abasourdi quand il était à 15-16%. Heureusement, en quelque sorte, il a baissé. Mais ça a un impact très négatif. C'est que ça a aidé Marine Le Pen à avoir une posture plus présidentiable, plus modérée. Marine Le Pen qui n'hésite pas à dire, vous vous rendez compte, il est quand même extrême, hein, il est extrémiste. Donc on a finalement une Marine Le Pen et on dit, c'est Marine Le Pen, ça la présidentialise. Ça lui donne un aspect bien plus respectable que Éric Zemmour. Et donc l'effet pervers de tout ça, c'est que ça sert énormément la candidature de Marine Le Pen.
Éric Zemmour qui était au Trocadéro, devant là aussi des dizaines de milliers de fans, de potentiels électeurs peut-être dans quelques jours, avec ce moment particulièrement gênant. Je vous propose de l'écouter.
Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Chacun est venu sur cette esplanade avec ses espoirs.
Macron assassin, le candidat Éric Zemmour qui ne s'arrête pas, est-ce qu'il l'a entendu ou pas? J'aimerais avoir votre avis, Johanna.
C'est difficile d'imaginer qu'il ne l'a pas entendu. Hein.
Il s'arrête,
on le sent fébrile un petit peu, mais c'est vraiment difficile d'imaginer qu'il ne l'a pas entendu après.
On le sent un peu coincé quand il entend ce Macron assassin. Dans l'image, il ne sait plus très bien comment réagir. Parce qu'il parlait de la délinquance qui avait fortement augmenté. Et donc, c'était dû, pensez bien, à la politique menée par Emmanuel Macron. Et là, de là, spontanément, une grande partie des gens présents crient « Macron assassin ». Et là, il ne sait plus très bien ce qu'il a dit. Pour une fois, on le sent un peu déstabilisé, puis continue son discours. Comme si de rien n'était, sans doute, qu'il aurait pu demander « calmez-vous », mais c'est inimaginable, puisqu'il n'a fait qu'alimenter ça depuis le début de sa campagne. Rappelez-vous, par contre, il y a 5 ans, Emmanuel Macron, il faisait l'inverse. Emmanuel Macron demandait qu'on ne siffle pas les adversaires, qu'on ne les hue pas. Ici, ben, lui, il a tellement fait ça depuis le début, notamment à Villepinte sur Emmanuel Macron, ben, que là, il était obligé d'accepter de continuer. Là, il était pris à son propre piège.
J'allais dire la même chose que Marc. Le contraste est saisissant. Quand j'étais dans ces meetings d'Emmanuel Macron, cette tendance naturelle, vous savez, il dit Nicolas, il suffisait qu'il dise le nom d'un. Il disait Marine Le Pen, il disait Jean-Luc Mélenchon. On entendait des sifflements qui commençaient. Non, ne lui pas. Et ça lui donnait cette posture comme ça présidentielle au-dessus de la mêlée. Je trouvais ça extrêmement habile. Et